Lecture pour vous. Une émission conçue et animée par Fernand Bailhac. Tous les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Lecture pour vous. Auditeur. Que vous soyez ou non amateur de lecture, que vous ayez ou non le temps et le goût de lire, vous avez tous gardé, j'en suis sûr, la nostalgie de votre petite enfance, l'époque où on vous lisait des histoires et des contes avant de vous endormir. Vous vous souvenez, j'en suis sûr, de la magie de ces livres qui avaient pris la chair d'une voix familière dans une lecture rien que pour vous. Aussi, je vous propose, pendant les 14 semaines à venir, de vous lire les chapitres d'un livre inédit, léger, frais, fantastique, juste ce qu'il faut, drôle et tendre. Il s'appelle « Sans interdit ». Il vous accompagnera le long de cet été, comme on emporte un petit bouquin acheté à la dernière minute, dans un hall de gare, le temps d'un voyage en train. D'ailleurs, « Sans interdit » a été écrit par un certain Edgar Dorsey. Mais j'entends le chef de gare qui siffle le départ du premier épisode. Alors, en voiture, et bon voyage en « Sans interdit ». Sans interdit. Prologue. À l'étage des soins intensifs, le couloir est encombré de brancards. Docteur, alors qu'est-ce qu'on fait pour le type de la 114 ? Il s'est encore affaibli. Le pouls est irrégulier depuis ce matin, et il fait de la brachycardie et des pauses respiratoires. Préparez une assistante respiratoire pour la nuit, au cas. Et continuer à surveiller le rythme cardiaque. Je verrai l'interne tout à l'heure. Effectivement, je crois pas qu'il tiendra le coup longtemps. Personne ne s'est manifesté de la famille ? Non. D'ailleurs, je crois qu'il n'avait personne. Il faudra appeler son médecin traitant pour vérifier éventuellement. Isabelle pousse la porte de la 114. Le malade dort, en respirant lourdement, entre deux silences pesants. Vérification du moniteur et de ses petites vagues déferlantes. Réglage de la perfusion. Le métronome ralentit et repart, irrégulier. Relevez les constantes sur la fiche médicale de Michel Prunier, 16 juin 1915, retraité, 24 rue Prosper Mérimée, Toulouse, etc. Baissez les stores pour que les dernières lueurs du soir ne se reflètent pas sur l'écran du moniteur. Juste, essuyez un peu la sueur sur le front. Dernier regard, fermez doucement la porte. Prévenir l'interne, c'est pour cette nuit, sûrement. CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Chapitre 1. Point de rebroussement. Bleu, si bleu. L'allure bleue se confirme, se déforme et s'invagine comme un tube. L'intérieur d'un tube qui se creuserait, qui m'aspirerait par à-coup vers le fond. Je me sens comme un papillon ivre à se cogner contre ces parois de nuit de cobalt, absorbé, digéré par une lumière glauque, vivante, animale. Chaque sursaut de respiration me projette un peu plus vers elle, puis me relâche, pantelant et épuisé. Rechargé et avancé encore, dans un spasme d'aile blessée. Me vomir intérieurement. Le halo s'élargit, s'adoucit, m'envahit de toute sa langueur et de toute son énergie. Il m'entraîne irrésistiblement comme une coulure horizontale de peinture bleu ciel. Loin derrière, le métronome vert suffoque ses hoquets ridicules dans un silence gluant. Le miel de l'azur m'envahit les yeux. Il s'irise de rose et de mauve à la façon d'une aube qui tarderait à naître. Un peu plus rose et sang, une tache rouge se précise lentement, s'arrondit et s'impose. Un disque vermillon barré de blanc horizontal s'avance, se précipite vers moi de plus en plus rapide, me percute avec la violence d'une force brute et primitive. Je m'explore, retourné, précipité en arrière, renvoyé par ce coup de poing de lumière vive qui m'a fait retraverser l'espace comme dans un délire d'enfant fiévreux. Le moniteur, régulier comme un arbitre, me compte 10, puis 20. Il continue de sonner les minutes de ce knock-out interminable. Le temps s'est remis à marcher. La sueur a coulé dans mes yeux, à se mêler à des larmes. Je ne suis pas triste, ni gai, aliéné de moi-même seulement. Je suis moite, mais je respire sans effort, régulièrement, calmement, comme jamais depuis longtemps. Et c'est bon. La pénombre de la chambre laisse apparaître le dessin du plafond, le boîtier encastré des néons, le placard, le fauteuil vide, la tablette roulante, la potence à perfusion. Les persiennes se soulignent de raies de lumières intermittents, et les draps fripés dans la main me semblent doux et souples, légers à caresser comme une chevelure. Une odeur de pomme mûre s'invite dans la chambre. Le métronome bat la mesure comme s'il attendait l'attaque d'un andante. Je crie vraiment trois fois, très fort, très vite. Qu'est-ce que vous me racontez? Écoutez, vous n'avez qu'à demander à Monique. Elle était de garde cette nuit, et ils y sont tous allés avec l'interne quand il l'a appelé, même qu'il croyait que c'était fini. Et alors? Il l'avait trouvé pleinement conscient. Les paramètres cardiaques absolument normaux. Bouh, légèrement excessif peut-être, mais un rythme respiratoire redevenu normal. Il n'était plus si anausé et s'exprimait clairement. Avant de se rendormir, on lui avait donné un sédatif, ils avaient fait une prise de sang et avaient transféré les données du moniteur en mémoire. On aurait les datas et le résultat d'analyse en fin de matinée. Il était arrivé à la porte du 114. Bonjour, monsieur Poignet. Comment ça va ce matin? Vous paraissez en bonne forme, dites-on. C'est Monique, cette nuit, qui vous a fait cet effet? Coup d'œil sur l'écran. Échange de regard dubitatif avec l'infirmière pendant qu'elle le redresse en position assise. Je vous ausculte. Respirez à fond. Encore. Encore. Toussez. Oui. Bien. Bien, c'est parfait, on dirait. Sylvie, vous lui donnerez un... Quoi? Vous voulez vous lever pour aller aux toilettes? Et vous croyez avoir assez de force? Vous avez faim aussi? Oui. Il me semble que je n'ai rien mangé depuis longtemps, je vous assure, docteur. Bon, on verra tout à l'heure. Sylvie, vous me rejoignez après la toilette. En attendant, essayez de voir s'il peut se lever. Mais doucement, hein. Le service n'avait jamais connu un cas pareil. Plus les internes défilaient à la 114, plus la salle de repos de l'étage s'animait des conversations plus ou moins bien informées sur le rétablissement de Prunier. Au bout de 8 jours d'observation, il avait fallu en convenir. La présence de ce type, qu'on croyait condamné, ne se justifiait plus du tout au service des soins intensifs. Non seulement il piaffait dans sa chambre, quand ce n'était pas dans le couloir, mais en plus, ni les électros, ni les analyses ne correspondaient au bilan vital de son entrée dans le service. Il y eut même une enquête interne administrative et médicale sur son dossier et sur ses antécédents. Son médecin traitant fut le plus étonné de tous et voulut le voir au plus tôt. C'était proprement incompréhensible. On organisa une sorte de pot de départ à sa sortie. Monique et Sylvie lui offrirent un aftershave. Lui s'était procuré un petit bouquet de fleurs à la boutique du hall d'accueil qu'il laissa à ses anges gardiennes. Depuis son taxi, il redécouvrait la ville, le périph' et ses encombrements, les ondes sonores des autos, la chaleur, le halo de pollution. Lassé, il remonta la vitre et s'endormit. Le chauffeur le réveilla devant chez lui. Chapitre 2. Seul mais peinard. C'est une rue étroite et calme, dans un quartier qui fut bourgeois, entre le canal et les boulevards, avec des maisons toulousaines traditionnelles, en briques, rez-de-chaussée et un étage, les soupiraux à charbon sur la rue, la porte d'entrée décorée de vitres de couleur qui éclaire un corridor en turquoise, jaune et parme, l'escalier en bois qui grince, et la porte qui ouvre sur le jardin, au fond. De part et d'autre, la cuisine, grande, et la salle à manger, avec sa cheminée de faux marbre. À l'étage, la chambre et une salle de bain. Un petit bureau à l'arrière qui surplombe un minuscule jardin, ceinturé de murs gris, couronné de tessons de bouteilles. Encore plongé dans la pénombre, Michel se cogne à une chaise et va ouvrir la porte-fenêtre qui donne sur la terrasse et le jardin. La lumière vive envahit la salle à manger et aveugle Michel un instant. En un mois, l'herbe est devenue haute et une branche de lilas, cassée, pend sur le massif des gaillardes. Sur la terrasse, à part les deux cactus, les autres pots de fleurs ont séché. Il faudra arroser. Michel ventile surtout la salle de bain qui sent facilement le moisi. Il pose ses lunettes d'écaille sur la tablette du lavabo, se passe un gant mouillé sur le visage et le cou, s'essuie. La glace lui renvoie l'image d'un homme las. De grands sillons ceinturent la bouche, jusqu'au menton volontaire. Les yeux bleus étoilés de rides, les tempes grises, les sourcils broussailleux, des poils blancs dans le creux des oreilles, la peau du cou qui fripe. Le peigne de corne jaune ramène sur le grand front plissé des mèches de cheveux fins et dessine à gauche une raie de racines pâles. La chaleur de four des briques de la rue traverse la maison et insinue partout sa présence. À la cuisine, bien propre et rangée depuis son départ à l'hôpital, il branche le frigo et l'arrête dès qu'il a ouvert la porte. Une odeur intenable. Il faudra le désinfecter d'urgence. Il déballe sa valise sur le lit et range ses affaires dans l'armoire à glace. Trie le linge sale à laver demain. Il va boire un verre d'eau plutôt tiède au robinet de l'évier. Inventaire à la cuisine. Il n'y a plus rien à manger. Faire les courses demain matin. Passer à la supérette. Rencontrer des gens au marché sur les boulevards. Ne pas oublier d'aller à la pharmacie. Michel perçoit le vague bruit des autos qui défilent là-bas rue des Chalets. Les gens rentrent chez eux, harassés par cette chaleur qui n'en finit pas de s'amplifier nuit après jour. Il sue, referme un peu les volets. De retour sur le canapé, il redécouvre, comme en une maison étrangère, son propre univers de célibataire. Le panneau de livres, la chaîne IFI et la montagne de vinyle, les trois tableaux au mur, l'eau forte dans son cadre de bambou, le papier peint d'une autre époque, les peintures à refaire, les meubles trop encombrants et moches, le secrétaire où il a jeté toutes les pubs et le courrier accumulé, encore du papier à trier, des factures, des relevés de banque, ça attendra. Et le téléphone. Ah oui, le téléphone. Il faudra que je consulte la messagerie. Mais qui pourrait m'avoir appelé? Comme une lassitude devant tous ces « il faut, il faudra, il faudrait ». La chaleur, le presque silence, l'ombre de théâtre. Eh bien, ce soir, j'irai volontiers au resto. D'ailleurs, t'as plus rien à bouffer. D'accord, s'entend-il répondre après avoir consulté du regard la petite photo encadrée sur le buffet. Cette photo, c'est celle de Madeleine, sa femme, son unique amour, quelques jours seulement avant sa mort, sa disparition, comme on dit pudiquement. Une jeune femme, la tête penchée, éclatante d'un bonheur trop fou, trop neuf pour elle. Du vent ramène ses mèches brunes sans éteindre le rayonnement du sourire grave. Elle est appuyée, silhouette oblique, au muret d'une digue, avec l'océan derrière elle, les rouleaux et la jetée du sémaphore sur ses pieux de bois qui ferment le paysage. La main droite plaque d'un geste féminin sa robe trop souple sur les jambes. Le bras gauche, dans un geste posé, gracieux, s'étend sur le ciment du muret. C'est l'été. C'est l'été des congés payés de 47. Ce serait l'été de leurs plus beaux souvenirs. La petite chambre verte de la pension de famille, les moules marinières, les glaces, le soir, le long du chenal, le sable blanc à l'infini derrière les dunes, l'amour dans le parfum d'encaustique des pins maritimes et des ajoncs, les ondées vite séchées sur leur visage, l'haleine iodée du souffle géant et l'océan. Ce sera l'été de la mort. C'est l'été 47, à peine 2 ans de mariage. Il retrouve, sans fermer les yeux, cette longue journée de soleil, cet endroit de la plage, un peu plus loin de la baignade surveillée, avec son charmant abri de joncs et de petites dunes où il s'isole des cris d'enfants et des familles à parasols. La tête couchée sur la serviette, il perçoit encore le halètement des vagues de la marée descendante dans un demi-assoupissement. Tu y reviens ? Un dernier bain, elle doit être chaude. Plus tard, le cri déjà si faible. Michel, Michel. Le flux de la baïne l'aspire au large. Elle lutte de toutes ses forces contre le courant. Il y a le ciel qui bascule, le sable qui s'effondre, l'eau qui saisit comme un crochet, qui cherche les poumons. Je la rejoins, j'étouffe, je suffoque. Je la perds 2 fois, elle ne réagit déjà plus. Je pars au large, inexorablement, comme étranger à moi-même, seul. On sera retrouvé par des promeneurs, elle, 200 mètres à peine, moi un peu plus loin, rejeté sur le sable. Je la reverrai dans le crépuscule, bleuie dans son maillot blanc, souillé de sable, entouré du cercle des badauds bourdonnants et des secouristes impuissants, ses yeux, morts, grand ouverts me fixant, comme un reproche. Je la revois dans sa robe, si légère et si bleue, sur la photo en noir et blanc. Elle vient de me dire « D'accord !» Thank you. CFM. Lecture pour vous. Diffusée les mardis à 22h avec rediffusion le dimanche à 15h. Chapitre 3. Plat de résistance. En refermant la porte, je pense qu'elle n'est pas seulement d'accord pour que j'aille au resto ce soir retrouver des inconnus, des gens en vie, inconscients et fragiles de vivre, préoccupés de paraître et de séduire, avides de s'enivrer de banalité et de légèreté, oublieux, quoique, de leurs soucis professionnels ou familiaux pour un instant. Une soirée trop courte. Elle est surtout d'accord pour que je remette en jeu, que je relance les billes, une partie gratuite. C'est bien ce qui m'est arrivé. La dernière bille qui descend comme un avion, accéléré, droit vers le trou, et cette pichenette du destin, tel un flipper qui la détourne, improbable, et la renvoie frapper la cible en annonçant la partie gratuite, à grand bruit de casseroles électroniques. Ce qui vient de m'arriver est tellement étrange, tellement inouï, que j'ai comme une angoisse à me le remémorer. Pourtant, aucun détail ne s'en efface ni ne s'évapore. Tout le contraire d'un rêve dont on essaie de se souvenir au matin et qui vous fuit par bribes dès que vous croyez le saisir. S'agit-il d'une rémission temporaire de mon état cardiaque, d'un mieux de ma santé pendant quelque temps? 69 ans de nos jours, ce n'est pas vieux, mais enfin, je reviens de loin. J'ai bien failli partir cette fois. Mais le plus troublant, c'est de la façon dont ça s'est passé, et la brutalité aussi de cette guérison. Guérison apparente à caractère évolutif, positif, sans détermination clinique clairement élucidée à ce stade. Une restitution accélérée de la tonicité myocardique et une régénérescence progressive des tissus coronariens paraissent toutefois les facteurs les plus décisifs de cette reprise spectaculaire et rapide d'une fonction circulatoire proche du standard des performances d'un homme de cet âge. Les autres fonctions physiologiques cardinales ont retrouvé une activité en corrélation avec, etc., etc. Le blabla des spécialistes de l'hôpital. Quelle peur ce voyage, cette chute. Et quel est le sens de ce sentiment, de cette expérience? Je n'ai pas rêvé de retourner violemment d'un seul coup en arrière. Le docteur Beau m'expliquait que certaines évolutions physiologiques s'accompagnent de sensations, de modifications psychiques fortes. Je reste perplexe. D'ailleurs, il ne m'a pas compris, ou je n'ai pas su traduire tout ça correctement. Enfin, je m'en fous de son opinion. Le principal est qu'il me trouve en bonne forme pour mon âge, et que moi, je me sens encore mieux qu'il y a 10 ans, avant la première alerte. Mais c'est peut-être l'été indien de mon corps, un passage trompeur pour m'endormir la vigilance. Je me battrai encore, et puis on verra bien. Je marche sur les boulevards, en soliloquant vaguement, absent à la foule et au mouvement, aux lumières, au bruit, à tout ce qui exprime la vie des autres. C'est comme si je découvrais une autre vie, la mienne, qui me paraît neuve et originale. Elle en vaut peut-être le coup. J'ai choisi un restaurant anonyme, c'est-à-dire un endroit où je n'ai pas d'habitude et où je ne serai pas connu. Pas envie, pas encore ce soir, de raconter le mois que je viens de vivre à un copain retraité de l'imprimerie, ou à une vague connaissance qui, de toute façon, après les premiers instants de compassion, se croira obligé de me remonter le moral comme si j'allais y passer dans 3 jours. Ou pire encore, de me raconter comment, lui, vraiment, il vient de souffrir le martyre avec sa crise de sciatique qu'il ne souhaite à personne. Ce petit resto, au fond de la place Arnaud-Bernard, une fois que je m'y suis installé dedans, en fait, je m'aperçois que je le connais comme il me connaît. J'ai dû être trompé par la devanture et la terrasse refaite depuis le temps. Mais à l'intérieur, je retrouve toute la disposition et presque l'ambiance, mais c'est une illusion, de janvier 1943, quand je suis arrivé pour me réfugier à Toulouse. Je me souviens surtout de l'atelière du moment, qui avait vite fait de me repérer, et qui m'avait, au bout de quelques jours de conversations à demi-mot, indiqué une sortie des artistes. Dans l'arrière-cour encombré de caisses de bouteilles, le mur un peu plus bas, à côté des tinettes, au cas où des messieurs à chapeau mou et à imperméable mastic. Je n'avais pas eu l'occasion d'utiliser ces commodités, car des copains du parti m'avaient trouvé rapidement un deux pièces discret dans le quartier de la Colonne, loin d'ici. N'empêche que je suis tout ému de me retrouver ici, dans ce bistrot-resto, en forme de couloir, d'où on peut voir, à travers la vitrine, tout ce qui arrive et tout ce qui se passe dans le carrefour depuis le fond de la place, surtout les tractions avant. CFM, lecture pour vous, diffusée les mardis à 22h, avec rediffusion le dimanche à 15h. Œuf mimosa à l'entrée. Et pour le plat de résistance? Un lapin chasseur et une crème brûlée en dessert. Merci, mademoiselle. Et un quart de vin rouge, s'il vous plaît. Le plat de résistance. De résistance, oui, avec un grand R. Le menu de l'époque devait être plus simple. Il n'y avait rien à manger en ville, ou alors au marché noir. Il y avait par contre des cartes de rationnement et les tickets. Roses, je crois. Je ne me souviens pas bien. Pourtant, qu'est-ce qu'on a dû en faire des vrais et des faux à l'imprimerie d'Hénard, à l'époque? Je revois la vieille rotative qui leur était dédiée, souvent en panne. Le compteur de tirage, surtout. Je ris tout seul. La préfecture avait fait plomber le carter, mais on débrayait l'engrenage par derrière, tu parles. Pendant que la patronne faisait le guet au magasin de devant, avec la sonnette sous le bureau. La figure rude et creusée du père Dénard, son regard pointu au-dessus des lunettes rondes, sa petite moustache jaunie par l'éternel mégot rallumée 10 fois l'heure.
L'ennemi numéro 1 de l'imprimerie, c'est pas l'incendie, c'est l'inondation, répétait-il régulièrement.
L'eau, c'était aussi son ennemi personnel, vu ce qu'il en buvait, sauf pour éclaircir le pastis à la fin des journées de 10 heures avec les compagnons réunis. Du pastis de contrebande qui venait de l'Aude, au goût inimitable. Mais quel artiste ce Dénard! Quel artiste pour la taille douce! Quand il poussait l'outil, il ne tremblait plus. C'est la vue qui l'a arrêté. Il en pleurait de rage. Il était assez content quand je suis arrivé de Paris, l'hiver 42, avec tout le boulot de faux papiers que le réseau lui avait mis sur le dos. La recrue que lui avait envoyé son vieux copain Émile, de la rue des Boulets-Montreuil. Depuis son apprentissage à 14 ans, il l'avait formé à toutes les techniques, Émile.
Un vrai cadeau celui-là, et qui a pas envie de partir rester haut, crois-moi. Surveille qu'il te ponde pas de la mornifle,
c'est de la fausse monnaie.
Tu sauras pas retrouver les vrais bifetons.
C'est des vrais billets. La blague usée du vieux parigot avait mis en confiance le père Dénard, mais je fus vite testé. Pas sur de la fausse, bien sûr, mais sur la copie d'une petite vignette de Rioux, illustrant 5 semaines en ballon de Jules Verne. Elle est encore à l'imprimerie au bureau du patron. Le patron, comme Émile, celui qui m'a appris le métier, c'était pas des patrons, c'était des artisans, des hommes de l'imprimerie. Ils adhéraient tous les deux au Front National, un mouvement inspiré par le Parti communiste depuis la fin 41. Les FTP sortiront de là. C'est aussi pour ça qu'ils m'avaient embauché, et aussi pour ça qu'on avait une clientèle de l'ombre. Les réseaux de passeurs du Sud-Ouest, la Dordogne, l'Ariège, le Gers, les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne, même l'Aude et les Pyrénées-Orientales, des fois. Ils venaient de partout, chez l'intermédiaire du père Dédé, remplir les doublures et les semelles compensées de quelques girondes, pas trop voyantes, avec des Ausweis, des cartes d'identité, des extraits de baptême et autres passeports plus vrais que nature. Les filles, elles apportaient les photos et les signalements, les pédigrés voulus chez ce coiffeur pour dames et échangeaient leurs manteaux et chaussures au vestiaire. La fille Dénard allait toutes les semaines au coiffeur. Pour rire, on la surnommait l'indéfrisable. Cette Jacqueline, quel grand personnage! Les gars de l'atelier en pinçaient pour elle. Mais moi, c'est pour Madeleine, la secrétaire, que mon cœur a battu immédiatement. Jacqueline avait du cran, mais Madeleine, elle avait du courage et un sang-froid peu commun. Tiens, un soir, je passais dans son bureau chercher un bon de tirage ou un truc quelconque. Un type de la préfecture arrive, à l'improviste, avec 2 gendarmes qui l'accompagnent pour commander 2000 tracts officiels. Eh bien, 3 cartes d'identité, neuves, dépassées un peu d'une enveloppe ouverte posée sur le bureau, juste sous leur nez. Quand le regard de Madeleine est tombé dessus, elle a compris. Mais elle n'a pas rougi, elle n'a pas tremblé. Elle leur a demandé juste un instant, et tout en continuant à leur parler et à mobiliser leur regard, à ranger les cartes, à passer un coup de langue sur le rabat, à rédiger une adresse de sa belle écriture bien appliquée, et a posé le tout dans la bannette, départ. « Bon, voulez-vous les pour quand, ces tracts, messieurs ?» Moi, j'en tremble rien que d'y penser. Il y a des plats de résistance que je n'ai pas encore digérés. Il est bien sympathique, ce petit restaurant. Et aujourd'hui, les 15 se font rares. J'y retournerai de temps en temps pour me rafraîchir la mémoire. Chers auditeurs, c'est déjà la fin de cet épisode. Vous retrouverez la suite des aventures de Michel Prunier, le retraité de 69 ans, miraculé du CHU de Rangueil, mardi prochain à 22h. Saura-t-il mettre à profit les quelques années de bonus que la vie lui a confiées? Saura-t-il oublier ses souvenirs de résistance pour vivre un peu dans le présent? À la semaine prochaine. Les auditeurs qui auraient pris l'épisode en cours peuvent le réécouter dimanche à 15h et le conseiller à leurs amis. Alors à bientôt. De toute façon, cette émission est en balado-diffusion sur cfmradio.fr, rubrique lecture pour vous. Bye bye. Les musiques d'accompagnement de cet épisode étaient de Michel Legrand, avec la bande son du Le Messager et du film Un été 42, et une pièce pittoresque de Chabrier, Improvisation. Le générique que vous entendez est du musicien grec Manos Hadjidakis.